vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. L'envie de s'amuser à écrire, d'être dans sa chambre pour écrire une histoire de petit chat noir sur la neige, une histoire qui s'est inventée pendant la messe. Un domestique passe et sert le café ou des tisanes. Jules est toujours ébloui par la beauté de Pierre. Il le voit debout, le dos à la cheminée, une main derrière sa nuque, l'autre dans les poches de son pantalon, le visage étrangement pur. Le trouve d'une beauté exquise. Au bout d'un moment, cela le gêne. Que m'arrive-t-il? Je ne vois pas. Puis, une heure plus tard, Jacob va se coucher, une fois que les parents sont partis. Jules embrasse ses enfants avant qu'ils n'aillent se coucher. Il a le cœur qui bat très fort lorsque c'est le tour de Pierre. Il donne un baiser sur la joue, une caresse dans les cheveux. Sa mère le voit et lui dit devant l'enfant, c'est vraiment un très bel enfant. Et les enfants dans leur chambre, les parents dans la leur. Une fois que Jules s'est habillé en robe de chambre, il va frapper à la porte de la chambre de sa femme. S'approche du lit.
Elle est déjà au lit. Il lui dit, bonne nuit. Bonne nuit. Ça va, Jules? Oui, oui. Rien de grave. Et il sort de la chambre de sa femme.
Mais en passant devant la chambre de Pierre et de son frère, il voit qu'il y a la lumière qui passe à travers le bord de la porte. Il entre. Les enfants sont au lit. Albert a un livre à la main et Pierre un cahier où il écrit. Lorsque Jules est entré, les enfants se sont arrêtés de lire et d'écrire. Pierre soupire, voit son père s'approcher de lui, le sourire, se pencher. Tu n'as pas sommeil? Non? Qu'est-ce que tu écris? L'histoire d'un petit chat. C'est un peu tard pour écrire. Demain sera encore la fête. Il prend les cahiers. Le cahier, le crayon, qu'il dépose sur la table de nuit. Voit la petite poitrine de son fils à cause du bouton de la chemise de nuit qui n'est pas fermé. Délicatement, il le lui boutonne, passe sa main sur son visage, lui donne un baiser. Étends-toi. Pierre s'étend et son père le couvre, puis se redresse. Bonne nuit. Et il sort de la chambre. Dans sa chambre, une fois couché, dans le noir, Jules a toujours le visage de son fils près de lui. En esprit, il voit sa poitrine lisse et douce. Il a honte de ces images. Que m'arrive-t-il? Il ne le faut pas. Mais Jules sait qu'il est entré dans une période dure, quand son cerveau va être obligé de se partager en deux, que cela va être peut-être le mener à la folie, une folie étrange, cachée. Il se dit, deux êtres en moi. Peut-être que les choses rentreront dans l'ordre demain. Que ces deux choses, ces deux êtres vont se cacher à l'intérieur de moi-même. Mais il sait beaucoup de chance. Je suis tombé bien bas. Jusqu'à présent, ce n'était que des gens en dehors de la famille. Mais là, mon propre fils, à part la loi des hommes, il n'y a rien qui l'empêche d'être infamie. Le cœur se fiche de la filiation. On ne voit que le beau. Je ferais mieux de me tuer avant qu'il m'arrive un grand malheur à cause de moi. Je maudis notre famille, l'est. Moi, mon frère, ma sœur, nous avons tous péché. Mes parents ont donné naissance à des monstres. Je ne toucherai pas mon fils. Mais dans la nuit, des images assaillent, lui montrent son fils en prise. Voluptueuse personne, femme ou homme, se réveille plusieurs fois en sueur dégoûtée. Personne ne le touchera, ni moi ni un autre. Personne ne le tolérera. Et il se rendort. Le lendemain, il ne se souvient de rien, mais durant toute la journée, son regard se pose sur Pierre, qui a bien eu sa lanterne magique. Jules, chaque fois qu'il passe devant lui, le caresse. Quelque chose est plus fort en lui. Ce n'est plus le même Jules. Il est toujours droit, net, mais cela cache quelque chose. Son âme est tourmentée. Sa femme trouve qu'il doit être encore fatigué. Mais elle est heureuse que son mari semble s'occuper de ses enfants, car lorsqu'elle voit qu'il en touche un, elle croit qu'il les touche tous. Le temps passe, passe, le temps passe. Se sont croisés et elle le regarde d'une beauté douce, ni fade, ni dédaigneuse. Les cheveux courts chantent un clair qui ondule sur le devant, de grands yeux bleus et d'une grande douceur. Il le regarde, ni surpris, ni inquiet, mais normalement. L'homme se sent gêné, mais veut le voir. Il reste un moment devant le jeune homme, machinalement s'assoit sur le muret et fait pendre sa jambe, et l'autre la laisse soulever sur le muret, ce qui fait qu'il montre ses entre-deux jambes. La jambe qui est tenue levée, il la tient par ses deux mains. Dessus, il continue à regarder l'homme. L'homme n'en peut plus. Il décide de s'éloigner, mais en même temps qu'il s'éloigne, il ne peut s'empêcher de se retourner. Il le voit de dos, puis après avoir fait quelques mètres, il se retourne et voit le jeune qui s'est mis debout, les jambes légèrement croisées, et se les serre de temps en temps comme pour se donner du plaisir à son sexe. L'homme le voit se rapprocher vers lui. Le jeune lève la tête de temps en temps vers lui. L'homme passe devant lui et le regarde. Le jeune aussi. L'homme gêné fait celui qui regarde les fiacres passer, comme s'il allait en appeler un. Il va se plaquer contre le muret. Le jeune le regarde de temps en temps. L'homme croit que le jeune le regarde, mais il s'aperçoit qu'il guette l'arrivée d'un fiacre. Fait signe à un qui s'arrête. Le jeune homme, avant d'entrer dans le fiacre, regarde l'homme. Et lorsque le fiacre part, il le regarde encore. L'homme l'a suivi du regard, entré dans le fiacre, et son regard a vu celui du jeune homme. L'homme s'est rendu compte, au moment où le fiacre est arrivé, que le jeune l'a regardé simplement, gentiment, sans une animosité, sans arrière-pensée. Et quelque chose lui dit, qui sait ce que veut l'homme, et qui se dit qu'il aurait accepté d'être suivi. C'est en tout cas ce que pense l'homme. Ce qui l'a surpris et ému, c'est ce regard, son charme. Ni dédain, ni vice, mais naturel et pur, simplement et élégant. L'homme a été ému et a eu envie de mourir. Une souffrance terrible l'a prise. La souffrance de ne pouvoir avoir, de ne pouvoir être aimé de cette beauté. La souffrance des misérables. La souffrance est d'autant plus forte qu'elle est due par une beauté qui ne peut pas. Qui ne l'a pas dédaigné. Si ça avait été une beauté dédaigneuse, il aurait reçu une gifle et ça aurait été fini. Mais là, il y a comme une pointe d'espoir. Peut-être qu'en le surveillant, peut-être que s'il lui parlait, il suffit qu'il dise un mot pour faire avancer les choses. Et là, il pourrait lui dire son amour, ce qu'il pense de lui et de ses sentiments pour lui. Et puis après, même s'il le rejette avec les mots blessants, il saura malgré tout ce qu'il ressent pour lui. Il aimerait entrer dans son monde à lui, par les paroles, sans le sexe. L'homme a encore envie de le voir et décide de revenir les mêmes jours de la semaine, au même endroit. Qui sait, le hasard fera leur rencontre. Semaine plus tard, il revoit le jeune homme au même endroit, le dos tourné au muret, le visage toujours aussi doux. Là, il n'hésite pas, se met à côté de lui à distance respectueuse. Le garçon le regarde toujours, l'homme aussi. Pourquoi me regardez-vous ? Il vient de parler d'une voix douce et calme. L'homme s'approche de lui et lui dit : je vous regarde parce que je vous trouve très beau. D'une beauté douce et calme, d'une beauté tellement douce et calme qu'on ne peut avoir de mauvaises pensées en vous voyant. Je suis très sensible à la beauté. Cela me rend malade. Ça ne vous gêne pas? Non? Vous aimeriez quoi exactement? J'aimerais vous voir nu pendant un moment. Votre visage merveilleux, votre corps que j'imagine beau et élégant sous vos vêtements. Si vous voulez, nous allons quelque part. Vous voulez bien? Oui. Allez où? Chez moi? Oui. Et il le mène chez lui, traverse les quais, suivent une avenue et prennent une rue. L'homme ne veut pas penser. Ça, c'est des idées sont contradictoires. Ils lui disent que le jeune va lui demander de l'argent ou le faire chanter. Ils entrent dans un immeuble cossu du 19e.
Vous téléphonez ?
Prennent les escaliers de marbre jusqu'au premier.
Éclair, entre et ferme la porte.
Une fois la porte fermée, je sens tout surpris et ému d'avoir chez lui l'être qu'il désire le plus, l'être qui lui paraissait le plus inaccessible. C'est comme dans un rêve. Le jeune regarde calmement. L'homme n'en peut plus. Doucement, il se plaque contre lui. Il caresse ses cheveux, puis le corps, et lui donne un baiser dans le cou. C'est chaud, c'est doux, autant que c'est beau. Il a l'impression que le jeune te le donne comme une offrande, pour lui faire plaisir gentiment. Le jeune a le visage toujours doux et tendre. L'homme se dégage doucement, lui enlève sa veste qui tombe à terre et lui déboutonne sa chemise. Apparaît au fur et à mesure une peau douce et chaude et blonde, toute blanche. Une poitrine mince. Le jeune l'aide à se déshabiller par de petits mouvements de son corps. le visage toujours aussi doux, puis le pantalon. Il fait descendre le long du corps, des jambes minces et fines, sans poils. Un petit caleçon avec, ou sur devant, une bosse. L'homme a chaud. Il se baisse, met les mains sur le caleçon et le descend tout doucement. Apparaît une verge, pas très grande. Il faut que je parte. L'homme se dégage. Le jeune remonte son caleçon. Son pantalon. L'homme lui donne sa chemise. L'aide à s'habiller et lui donne sa veste. Je dois partir maintenant. L'homme est tellement triste qu'il se plaque, le plaque contre lui. Il sent son corps si doux. Il lui dit : j'ai peur de ne plus te revoir. Je reviendrai. Quand ? Je ne sais pas. Je peux te raccompagner jusqu'au quai ? Oui. Et ils sortent de l'appartement. Le fiacre s'arrête. Le jeune le prend. L'homme regarde le fiacre s'éloigner et s'en retourne. Il pense à ce qu'il a fait et vu et rêve. Puis il devient mélancolique et rêve du jeûne, d'une deuxième rencontre. Un jour dans son lit, il s'est masturbé en pensant à ce qu'ils ont fait. Il se souvient de ce qu'a dit le jeûne, la seule chose qu'il ait dit durant l'amour, « Papa ». Cela trouble l'homme et se demande si le jeûne aime son père. Si son père l'a violé, s'il désire un père qu'il n'a jamais eu. Pourquoi papa ? Les jours passent, l'homme va toujours sur les quais, plusieurs fois par jour, mais ne trouve pas le jeune. Il a même oublié de lui demander son nom, et lui ne lui a pas donné le sien, ni son adresse. Si le jeune n'a pas fait attention en venant chez lui, ne sait pas où il habite, ni qui il est. Tous deux ne savent rien de l'autre, sauf leur corps. Mais c'est peu pour un monde aussi grand. L'homme se dit tristement qu'il ne le verra sûrement plus. Les jours passent, et il se dit qu'il ne le reverra peut-être plus. Un soir, on a sonné à sa porte. Il va ouvrir. C'est lui. Bonjour, je peux entrer ? Oui, bien sûr. Il le fait entrer et ferme la porte. Le jeune est extraordinairement calme. Je suis content que tu sois venu. Tu as trouvé facilement ? Oui. Viens t'asseoir au salon. Boire quelque chose ? Non, merci. L'homme est très ému. Je le trouve plus beau que dans ses souvenirs. Je croyais que tu n'allais plus revenir. Le jeune sourit. L'homme lui caresse ses cheveux et lui donne un baiser sur la joue. Je t'aime, tu sais. Puis, met la main sur sa jambe et monte, arrivé vers la bosse entre les jambes. Tu veux ? Alors, l'homme son pantalon, défait sa ceinture. appuya le jeune contre lui, la tête sur sa poitrine. Il lui donne des baisers sur le crâne. Le jeune lui dit, je dois partir. Il se lève, se rhabille, l'homme aussi. Puis l'homme demande, nous nous reverrons?
Oui.
Il le prend dans ses bras, l'embrasse. Puis ils vont vers la sortie. Avant qu'il ne parte, il l'embrasse encore une fois. À bientôt.
Oui.
Et le jeune ouvre la porte et s'en va. L'homme n'ose pas sortir de chez lui. Il a peur que le jeune vienne le voir lorsqu'il est absent. Il sort juste pour ses courses. Le jeune vient le voir de temps en temps. Un soir, avant de partir, l'homme lui demande « Comment faire pour te contacter ?» Le jeune lui dit « Je ne sais pas. Attends, je vais te donner. » Il lui donne un bout de papier et il demande au jeune « Comment t'appelles-tu ? » Il ne répond pas. « Tu connais mon nom ? » ?»«
Oui, j'ai vu sur la porte. »
« Robert Ellison. » Les semaines passent. Le jeune vient de temps en temps parler. Il est toujours calme et gentil. Ils font l'amour sans rien se dire, ou plutôt le disent après, comme une chose normale et due. L'homme ne sait rien de lui et le jeune ne lui parle pas, ne lui pose pas de questions sur lui. Les semaines passent. Un soir, avant qu'il ne quitte l'homme, l'homme lui donne un petit paquet. Qu'est-ce que c'est ?
Une montre.
Merci. Il la met. Elle te plaît ?
Oui, beaucoup.
J'hésitais avant de te l'offrir, car j'ai eu peur que tu ne la veuilles pas à cause de tes parents. Ça ne va pas te créer des ennuis ?
Non, pourquoi ?
Le jeune continue à appeler l'homme monsieur, malgré qu'il sache comment il s'appelle. Robert Ellison, lui, aimerait savoir un peu plus de choses sur le jeune, mais il n'ose pas le lui demander. Alors, il décide de faire une enquête lui-même. Un soir, alors qu'ils font l'amour dans le lit, le jeune a dit « Papa !» Tout à coup, la porte de l'appartement s'est ouverte avec une clé. Le bruit a réveillé Robert. La porte de la chambre qui s'ouvre, une forme humaine fonce sur Robert et lui enfonce un couteau dans la poitrine. Robert tombe à terre. Cela a été très vite. Il n'a pu réagir. Le jeune a vu que la forme humaine, à cause de l'éclairage qui est dans le couloir, il est comme paralysé. L'homme prend dans sa poche de sa veste une seringue. Elle lui enfonce dans le bras. Le jeune perd connaissance. Pierre se réveille d'un coup. Il a la peine à retrouver sa chambre. Quel rêve horrible il a fait. Pierre se rendort. Mais une douleur étrange dans le bras gauche l'empêche de vraiment sombrer dans le sommeil.
trois jeunes filles se disent au revoir et bonne nuit. L'une est grande rousse, une robe bleue, l'autre brune, grande aussi, robe rouge. La brune lui demande, t'as passé une bonne soirée? Oui, très bonne. La noire est sympathique. La rousse paille et dit, bon, eh bien je te laisse. Je dois dormir un peu avant d'aller travailler. Elle s'embrasse toutes les deux. Et la rousse entre dans son immeuble neuf. Monte jusqu'au quatrième étage.
Pour ouvrir la porte de son appartement.
Elle se sent poussée par des... À l'intérieur de l'appartement, elle entend la porte se refermer avec la clé. Elle panique, prend peur, essaye de se débattre. Mais ce n'est pas facile, surtout lorsqu'on est pris par derrière. Elle essaye de pousser, de crier, mais il lui a mis la main fortement sur la bouche. Elle sent son haleine, son souffle, son odeur. Puis tout va très vite. Il la maintient très fortement. Sort de sa veste un rasoir. Elle a les yeux horrifiés. Il ne peut les voir parce qu'il est derrière elle. Et avec le rasoir, il lui tranche sa gorge. Le sang gicle. La tête s'abaisse. L'homme, essoufflé, hésité, continue à donner des coups de rasoir. Ce qui déchire le vêtement. Et au bout d'un moment, il la lâche. Elle tombe. Dans une mare de sang, comme un mortin, comme un pantin. Il sue, il tremble, comme s'il jouissait. Vous êtes toutes des salopes. Alors l'homme, ou la chose, lui arrache ses vêtements, ou avec son rasoir. Il la coupe. Le premier coup qu'il lui donne lui a montré qu'elle n'était pas tout à fait morte lorsqu'il l'a déchiquetée au rasoir. Il l'a fait lorsqu'elle était vivante. Puis essoufflé, cavé, il se lève, il se déshabille parce qu'il a du sang sur ses vêtements. Nu, il cherche sa salle de bain, se lave soigneusement et se parfume beaucoup. Prend dans l'armoire de la chambre des vêtements de femme, s'habille, se maquille comme il faut, avec un chapeau à voilette, et regarde sa montre. Il est temps que je rentre, et il quitte l'appartement, en laissant le cadavre ensanglanté. Se sent bizarre, il y a des images, des voix, des choses qui lui reviennent et qu'il n'arrive pas à voir ce que c'est. Et puis, cette douleur dans le bras. Le matin, il se souvient d'un endroit du quai de Saône où se trouve en face un kiosque à journaux. Ce lieu l'obsède et décide de s'y rendre. Après avoir pris son petit déjeuner, il s'habille et se prépare pour sortir. Jules lui barre le passage. Où vas-tu? Je vais me promener un peu. Attention Pierre, sois sage. Tu ne dois parler à personne. Et si tu te sens pas bien, reviens tout de suite à la maison. Pierre lui dit, je ne fais rien de mal en sortant. Je ne suis pas malade. T'en es sûr? Oui. Pas de trouble, de besoin bizarre? Non, je me sens bien, très bien. Si tu fais encore une fois une bêtise, ce sera la maison de repos. Pierre ne comprend pas pourquoi on le menace toujours de maison de repos. Mais cela l'inquiète car il s'aperçoit que chez lui, il y a des trous de mémoire, des choses étranges. Des trous de mémoire de plusieurs jours. Où il se trouve dans son lit, son père lui dit qu'il a eu un malaise. Mais lui, c'est seulement qu'il a eu un trou noir et que c'est qu'il a des nausées. Et chaque fois, il a des courbatures. Des fois, il se demande s'il est malade, comme épileptique. Mais cette fois, il se souvient de ce bout de quai et veut savoir. Je peux sortir ? Oui, mais attention. Dehors, il se sent plus libre qu'à la maison. Car à l'intérieur, il n'a pas un moment à lui. Arrivé vers l'endroit du quai, il se souvient, il cherche dans sa mémoire, mais il ne trouve rien. Il reste un moment le dos plaqué contre le mur. Un homme passe, le regarde fixement. Pierre ouvre ses épaules, l'homme suit son chemin. Pierre se demande pourquoi il est arrivé à ces coins de quai. Il y a sûrement quelque chose à se rappeler. Il soupire et repart. J'aurai toujours la mémoire qui flanche. Tout à coup vient à lui un de ses camarades de lycée. C'est Philippe, un jeune homme qui a son âge, grand, mince, bien, le visage très agréable. Il porte une gabardine marine. Bonjour Pierre, on te voit toujours. On te voit plus ? T'es toujours malade ? Bonjour Philippe, eh oui. Mais si au moins je savais de quoi je suis malade. Raconte. Il n'y a rien à dire. J'ai des passages dans ma vie dont je ne me souviens plus. Mes parents me disent que j'ai fait de grosses bêtises très importantes et que père a pu tout arranger les choses. Mais je n'arrive pas à savoir quelles choses. Je revois des images, des mains, mais cela ne me dit absolument rien. Demande à ton père. Mon père ne veut rien dire. Il dit que cela vaut mieux que je me souvienne de rien. Philippe lui dit, ça doit être très ennuyeux. Et Pierre lui dit, oui, surtout que depuis ces crises, on me surveille constamment. Mon père est toujours près de moi. Il m'aime bien, mais moi je sens de la réticence lorsqu'il est près de moi. Il a une façon de me fixer, de me caresser, c'est très gênant. J'ai envie de le fuir. Pourtant le pauvre, il fait tout pour m'être agréable. Je peux lui demander n'importe quoi, il l'achète. Il n'y a qu'une seule chose qui le gêne, c'est lorsque je sors. Il me recommande bien de ne parler à personne. Et si je me sens bizarre, étrange, je dois rentrer à la maison. T'as des besoins étranges ? Non, mais il paraît que ça se passe lorsque je suis en crise. Philippe lui dit, j'aimerais savoir comment tu es en crise. Je ne le sais même pas moi-même. Je crois qu'il faut que je te quitte. Surtout ne parle à personne de ses ennuis. Père ne veut pas que ça se sache. Je te le promets. Tu retournes au cours quand ? Je ne le sais pas. Peut-être demain. C'est père qui va me le dire. Tu vois, à mon âge, je suis traité comme un gamin. Allez, à bientôt. Et il se quitte. Ça a fait du bien à Pierre de parler de ces choses, de s'en retourner chez lui. Et il s'en retourne chez lui pour éviter d'inquiéter son père. Avec une barche quitte Lyon en suivant la Saône. Le conducteur fait marcher son cheval à bonne allure. Il fait nuit, il doit être 21h. Le conducteur est bien habillé. Sa gabardine et un chapeau. Il a le souffle court. La route est déserte.
J'avais besoin de sortir. J'étouffe à la maison. Et puis, l'autre est toujours là, à me regarder constamment, avec son sourire. Si ce n'était que de moi, je le prendrais, le battrais jusqu'au sang. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder? Je ne fais rien de mal. Tout ce que je le fais en dehors de la maison. Chienne de vie. Quelle idée aussi de se mettre près de moi. J'étouffe, j'ai envie de m'assouvir, de respirer. Ah. Plein poumon. La route est lisse, blanche. Personne, il n'y a personne. Pourtant mon instinct me dit que je vais trouver quelque chose. De toute façon, il faut bien. Je ne peux pas rester comme ça chez moi. Ah non alors, que penserait-il? Il dirait. Qu'ils avaient raison. Eh bien, ou lui. Bien sûr que c'est bien moi. Mais la faute à qui? Nous sommes tous maudits. Maudits. Pourris. C'est le sang qui est malade. Je n'y suis pour rien. Je n'y peux rien. Les autres aussi sont comme ça. J'aimerais trouver quelque chose cette nuit. Quelque chose d'aussi bien que la dernière fois. Rapide, bien. J'ai bien tranché. C'est bizarre comme la mort pour apporter la jouissance. Je crois que j'aurais mieux fait c'est de me promener la rue, dans les rues, comme la dernière fois. Ici, en rase campagne, qui veux-tu que je trouve à cette heure? Si on me prend, je sais ce qu'on va dire. C'est que je suis une bête sanguinaire, sans morale, etc. Mais moi, j'ai de la morale. La preuve, je ne touche pas à la famille. Ma famille, c'est sacré. Pourtant, ce serait plus simple. Et je n'aurais pas à passer mes nuits dehors. Et puis, la famille, c'est sacré. Mais la famille, la patrie, on n'y touche pas. Et puis, je suis un artiste, moi. Je suis insensible. La preuve, je serai incapable de décrire dans une de mes œuvres un de mes crimes. J'ai le respect de l'auteur. Je suis contre le réalisme à tout prix, comme les naturalistes de Zola et compagnie qui écrivent des saletés. Je me demande ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Ou alors, ils se comportent normalement bien et se défoulent sur le lecteur. C'est dégoûtant. Il ferait mieux, c'est de faire ça comme moi. Ces choses-là se font en privé. C'est dégoûtant de laver son linge sale devant tout le monde. Ils n'ont aucune morale. D'ailleurs, ce sont des socialistes, des libéraux, républicains, pour la commune, les syndicats, les grèves, contre les curés et la famille. Eh bien moi, je dis non, ces gens-là sont dangereux. Ils devraient aller en prison. On guillotine pour moins que ça. Mais si l'on m'arrête, pourtant, je ne crains pas des troubles avec des manifestations ou grèves. On me guillotinerait. C'est injuste. Je ne gêne personne en tuant de temps en temps quelques filles. Dans le temps, ça ne se voit pas. Et puis cela me permet de ne pas toucher à ma famille. Donc c'est salutaire. Et puis, qu'est-ce que ces gens ont à me juger? Moi, je tue comme ça de temps en temps. Et eux, lorsqu'ils déclarent des guerres, qu'ils tuent par milliers, ils ont le droit, mais pas moi. Pourquoi? Je suis comme tout le monde, un brave homme, mais qui a eu la malchance d'avoir un mauvais sang. Une fois que j'ai fait ce que je dois faire, je suis détendu, je suis calme, bon, et un brave homme, brave père de famille, honoré, estimé de tous. Il sautait et continue de suivre cette route qui longe la Saône. Il lui arrive de croiser quelques maisons individuelles au fond d'un parc.
commence à être fatigué, mais quelque chose le force à continuer. Cette chose, c'est la recherche de son plaisir. Cheval trotte d'une façon régulière. Tout à coup, à un tournant, tiens, une femme, une silhouette de femme qui marche sur le talus. Elle est habillée en paysanne, longue grise, petit béret, elle marche d'un bon pas. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire à cette heure-ci? Il a le corps qui bat, sa bouche sèche, il a chaud. Tant pis pour elle, de toute façon ce sont toutes des garces. La femme voit arriver vers elle la carriole. Elle s'arrête sur le talus pour la laisser passer. Il fait la pleine lune et l'on voit bien. La carriole s'arrête à ses côtés. Vous allez loin comme ça? Non, juste trois maisons plus loin. Montez. Elle hésite. Vous n'allez pas rester cette nuit, en pleine nuit, sur cette route. Vous risquez d'avoir des mauvaises rencontres. Allez, montez donc. Je ne peux pas vous laisser comme ça, à cette heure. Ne faites pas d'histoire. Je vous ramène jusqu'à votre maison. Elle monte sur la charrette à côté de lui. Le cheval repart. Que faites-vous à traîner la nuit à cette heure? Là, je suis allé voir ma mère malade. Oh, il la regarde bien. Elle semble bien en chair, de la chair blanche, un peu molle, mais jeune. Elle sent doit gicler comme pour un cochon. Son cou l'étite, un bon gros cou blanc. Il a envie d'y enfoncer une lampe dedans. Ma pauvre petite, ton heure est arrivée. C'est dommage, tu es une brave fille et qui me semble bien aimer sa maman. C'est rare à notre époque, mais tant pis. Le destin t'a mise entre mes mains et c'est pourquoi. Elle le regarde et lui demande, pourquoi me regardez-vous comme ça? Parce que je me disais, pauvre petite, qui semble bien brave, malheureusement ton heure est arrivée. Je ne comprends pas. Alors ? Il fouette son cheval qui file à toute allure. D'une main, il la tient et de l'autre sort de sa poche un rasoir. Elle crie, elle hurle, elle veut descendre. Se jeter de la charrette, mais la tient. Ne te jette pas, tu risques de te tuer, ce serait dommage. Le cheval va à une vitesse folle. L'homme, de tout son poids, se plaque contre la pauvre fille qui ne peut plus bouger. Elle est terrorisée de voir la lampe de rasoir aller venir au-dessus de sa tête. Et tout à coup, une grande entaille au cou qui laisse une traînée rouge et le sang à gicler sur l'homme. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.